RFI. Grand reportage.
Armageddon.
C'est Armageddon. On dirait vraiment un film de science-fiction ou la guerre des étoiles. L'après Merkel se prépare activement outre-Rhin. Dimanche 26 septembre, les Allemands vont élire leurs députés. Parmi les questions les plus débattues au sein de cette campagne, le réchauffement climatique. Le thème a été relancé après les inondations dévastatrices qui ont touché l'ouest de l'Allemagne et fait près de 200 morts. Le climat, enjeu incontournable de l'après Merkel, c'est un grand reportage d'Anastasia Becchio.
Un paysage quasi lunaire, des cratères de terre brune d'où émergent de gros tubes en béton et des mottes de gravier. C'est désormais ce que voit Timo Grotten lorsqu'il se tient sur le seuil de sa maison. De celle de ses voisins, il ne reste plus qu'un pan de mur en briques. Sa maison est la dernière de la rue à n'avoir pas été démolie ou emportée par le torrent de boue dans un gouffre de près d'un kilomètre de long. Derrière la barrière métallique, les engins de chantier continuent de remblayer la terre.
Tout a été englouti. Ici, quatre maisons ont été emportées. À votre gauche, il y a encore un trou, mais il était 20 mètres plus profond. Très profond, en tout cas. Il a déjà bien été comblé. C'était comme dans un film d'horreur. Les habitants ont été sauvés in extremis. Le courant, très fort, a tout emporté sur son passage. Les voitures, les arbres, tout. Tout ça, je l'ai vu parce que j'ai grimpé sur le toit de ma maison. Je ne pouvais rien faire. Il y avait trop de courant. Il y avait des maisons jusque-là. Certaines ont été détruites. D'autres ont disparu, englouties dans le trou. Ma maison est la dernière à avoir été autorisée à rester sans être détruite.
Par miracle, ce quartier de Blessem, à Erftstadt, ne déplore aucun mort. Mais les dégâts sont très importants. Plus de deux mois après la catastrophe, des pompes à eau sont toujours en marche. Les habitants continuent de déblayer leurs maisons.
J'ai tout déblayé, mais pour ce qui est d'y habiter, ça n'est pas encore possible. Je vais vous montrer à quel point c'est imbibé d'eau. L'eau a stagné pendant plusieurs semaines et j'ai mis du temps à nettoyer. Là, c'était la cuisine, il n'y a plus rien. Tout est détruit, il a fallu tout jeter et il y a de la moisissure et de la boue partout. Les experts du climat disent que ce genre de phénomène deviendra de plus en plus fréquent. Même si nos maisons et le terrain vont être consolidés, c'est quand même un problème. Beaucoup d'habitants ont peur et ils hésitent à revenir.
Dans une école d'Erftstadt, la candidate locale des Verts, Marion Zand, organise une matinée de discussion sur la catastrophe de cet été, ses conséquences et les pistes pour s'en prémunir.
Nous voyons cette inondation catastrophique, si vous m'autorisez cette métaphore, comme une fenêtre à travers laquelle nous pouvons voir notre avenir. C'est pourquoi nous voulons nous pencher sur la question de savoir quelles mesures nous pourrions prendre pour éviter que de tels scénarios ne se reproduisent.
Dans l'assistance des habitants touchés de près ou de loin par les inondations, comme Katia Dolianski, convaincue qu'il faut lutter plus activement contre le réchauffement climatique.
Je pense que les gens sont de plus en plus conscients des effets du changement climatique, surtout depuis ce qu'il s'est passé ici. C'est présent dans les consciences, mais l'étape suivante sera de changer radicalement son mode de vie. La question est de savoir si ça va se produire. Je pense qu'ici, dans le futur, dans les prochaines années, ça sera toujours très présent dans les têtes. Mais dans les villages qui ont moins été affectés, c'est encore une autre question.
Parmi les orateurs du jour, Heinrich Döring de l'association de protection de la nature, NABU.
Ces 20 dernières années, plusieurs fleuves en Allemagne ont connu des crues extrêmes. L'Oder, l'Elbe, mais jusque-là le Rhin avait été épargné. C'est la première inondation grave qui se produit ici, dans cette région, et qui est liée au changement climatique. Mais ces thèmes, à la fois du changement climatique et de la protection contre les inondations, sont difficiles à appréhender pour la population. Dans quelques années, on aura oublié cette inondation. C'est pourquoi je suis sceptique sur le fait qu'une telle catastrophe puisse avoir des conséquences sur la politique environnementale à long terme. Car d'autres questions vont revenir sur le devant de la scène. Les gens ont peur que l'essence devienne plus chère, que les matières premières se raréfient, et ils redoutent de ne pas pouvoir continuer à vivre comme avant. Donc le grand défi sera de continuer continuer à sensibiliser la population au changement climatique et à ses conséquences.
Pour tirer des leçons de la catastrophe de cet été, plus de 25 organisations non gouvernementales ont lancé un appel à reconstruire les zones sinistrées en 100% énergie renouvelable. Elles exhortent le gouvernement, qui sortira des urnes ce dimanche, à créer un fonds spécial pour permettre cette transition énergétique. Selon eux, l'aide de 30 milliards d'euros doit s'accompagner d'une reconstruction réfléchie et durable. Parmi les signataires de l'appel, Stefan Xenger, secrétaire général de WWEA, l'Association internationale de promotion de l'énergie éolienne, dont le bureau principal se trouve à Bonn.
This flood made it so obvious that we really have to...
Ces inondations ont vraiment mis en évidence le fait que nous devions faire quelque chose. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre voie à long terme que de convertir nos approvisionnements énergétiques en énergie renouvelable. De nombreuses maisons vont devoir être complètement reconstruites. Pourquoi dès lors les équiper en chauffage au fioul ou en chauffage au gaz? Les conduites de gaz ont été complètement détruites, emportées par les eaux. Cela fait plus de 100 km au total, je crois. Alors pourquoi ne pas commencer à reconstruire de manière durable avec des énergies renouvelables?
Les traces des inondations dévastatrices sont encore visibles dans le centre-ville d'Euskirchen. La principale rue commerçante ressemble à un vaste chantier de rénovation. De nombreux commerces ne pourront pas rouvrir avant encore plusieurs mois. Les bruits des travaux parviennent jusqu'au bureau du député local de la CDU, Detlef Zaev. Favoriser la reconstruction des bâtiments en 100% énergie renouvelable à travers des subventions, pourquoi pas, dit le parlementaire de droite, sans trop y croire.
L'idée en soi est bonne, c'est une demande des Verts au Bundestag, mais on a des milliers de foyers touchés qui pour certains n'ont pas d'électricité et pas de radiateur en état de marche. Or, nous sommes en septembre et dans cette région, l'hiver peut arriver vite. Or, si l'État dit maintenant, vous ne pouvez reconstruire votre maison que si vous installez un nouveau système de chauffage, géothermique par exemple, cela provoquerait des retards et cela leur ajouterait de nouveaux obstacles.
Dans une Allemagne en proie aux conséquences des inondations de juillet, la pression se fait de plus en plus vive pour accélérer la transition énergétique et atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat pour limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Stefan Xenger.
Nous avons cet accord de Paris qui nous force, en quelque sorte, si nous le prenons au sérieux, de sortir du charbon, du gaz et du pétrole. Ici, en Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est une question sensible, parce que nous avons toujours des mines de charbon qui continuent à fonctionner. Les mines de houille ne sont désormais plus en fonction, mais les mines de lignite, qui sont beaucoup plus polluantes, car elles émettent plus de CO2, doivent encore être fermées. Et il y a un débat autour de la date de leur fermeture. Officiellement, c'est 2038, mais je suis persuadé que cela arrivera plus tôt, parce que la pression est trop forte, mais aussi parce que ça devient aussi plus cher.
La question de la sortie du charbon dans ce land de Rhénanie du Nord-Westphalie donne lieu à de nombreux débats au sein de la classe politique, en particulier au Landtag, le parlement régional à Düsseldorf. La Kohlekommission, littéralement la commission du charbon, dont la mission est de développer les instruments pour accompagner une sortie du charbon, a préconisé de fermer les dernières centrales à charbon allemandes en 2038. La recommandation a été adoptée par le tandem CDU-SPD au pouvoir et votée par le Parlement en juillet 2020. C'est bien trop tard, estiment les Verts, qui plaident pour une sortie dès 2030, comme le préconise un comité d'experts et de groupes environnementaux. La députée Wiebke Brems, c'est la porte-parole du groupe des Grünen pour les questions liées au réchauffement climatique et à l'industrie minière au Parlement local.
Notre groupe des Verts au Parlement régional a commandé une étude pour comprendre quand l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie pourrait devenir neutre en carbone. Il en ressort que dans tous les domaines, que ce soit la production d'électricité, l'industrie et les transports, on peut arriver à une neutralité carbone en 2040. C'est plus tard que ce que certains militants du climat réclament, mais nous disons que d'un point de vue technique, c'est possible, à condition qu'il y ait un cadre politique. Mais tous ces objectifs ne pourront être atteints que si notre Land, mais aussi toute l'Allemagne, sorte du charbon d'ici 2030. C'est un point essentiel. Techniquement, c'est possible et on va y arriver.
Dans l'aile opposée du Parlement régional de Rhénanie du Nord-Westphalie, dans les bureaux de la CDU, le parti de la chancelière et du président de la région et candidat à sa succession, Armin Laschet, on ne semble pas partager cet optimisme. En Allemagne, 23% de l'électricité générée dans le pays provient encore des centrales à charbon. La moyenne est de 13% dans le reste de l'Union européenne. L'Allemagne reste fortement dépendante du charbon après avoir décidé de tourner le dos au nucléaire suite à l'accident en 2011 de la centrale japonaise de Fukushima. Or, les énergies renouvelables ne sont pas encore en mesure de compenser un abandon rapide du charbon, explique le député CDU du Parlement régional, Henning Rehbaum, chargé de ces questions au sein de son groupe.
En Allemagne, la commission charbon, constituée de politiques, de scientifiques, d'économistes, de syndicats, mais aussi de citoyens et d'associations de protection de l'environnement, a recommandé de sortir du charbon en 2038 et si possible dès 2035. Il s'agit d'un bon compromis que les politiques devraient s'efforcer de suivre. Je pense qu'il est de notre devoir, en tant que politique, d'assurer la sécurité de ces approvisionnements en énergie. S'il est possible de sortir du charbon avant 2038, je dirais tant mieux. Mais l'essentiel est d'assurer la sécurité des approvisionnements. Et pour cela, il faut accélérer le développement des énergies renouvelables, de manière à pouvoir éventuellement en sortir plus tôt.
Ce débat trouve une illustration à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Düsseldorf. Des excavatrices géantes creusent la terre dans une immense fosse où sont visibles des strates qui vont du beige au noir. L'énergéticien RWE exploite le lignite, un combustible moins énergétique que la houille et fort émetteur de gaz à effet de serre. Garzweiler 2 est l'une des plus grandes mines à ciel ouvert d'Europe, avec une superficie proche de celle d'une ville comme Lyon. Et elle devrait encore continuer à s'étendre dans les années qui viennent, engloutissant des champs, des routes, mais aussi des habitations. 5 villages sont aujourd'hui menacés. La ferme d'Eckart-Heukamp à Lützerath est la prochaine sur la liste. De l'autre côté de sa rue, il n'y a plus qu'une friche envahie par la végétation. Toutes les maisons voisines ont été détruites.
La moitié du village a déjà disparu. Là, il y avait une ferme, elle a été détruite au début de l'année. Et il restait encore 3 maisons et une autre là-bas derrière. Il y avait aussi 2 autres fermes encore plus anciennes et encore 2 maisons. Tout cela a été détruit.
Entre 2 réparations de sa moissonneuse-batteuse, Eckart se bat contre l'extension de la mine pour tenter de rester dans sa ferme. Il a porté plainte en justice contre son expropriation sans trop y croire. La loi minière allemande comporte une clause de sécurité des matières premières. Pour assurer l'approvisionnement, elle priorise l'extraction par rapport aux autres intérêts primordiaux, tels que les intérêts des propriétaires fonciers. L'agriculteur a aussi mandaté un expert en industrie minière.
Il est prévu que tout l'Uzerat soit détruit, mais mon expert a conclu que RWE pouvait avoir suffisamment de charbon jusqu'en 2038 sans avoir à s'étendre. On pourrait épargner toute cette zone et il y aurait encore suffisamment de charbon à disposition jusqu'en 2038. Il serait donc possible encore de sauver l'Uzerat.
Du côté de l'exploitant de Garzweiler 2, on maintient le calendrier d'expansion de la mine. Guido Steffen est le porte-parole de RWE.
D'ici 2030, la capacité de production d'électricité à base de lignite aura diminué des 2/3. Toutes nos mines de lignite à ciel ouvert vont fermer plus tôt que prévu. 2 d'entre elles cesseront leur activité à la fin 2029 et une seule sera exploitée plus longtemps. C'est nécessaire pour alimenter les centrales restantes en combustible. Cependant, nous aurons besoin d'extraire le lignite qui se trouve sous 5 villages de la commune d'Erkelenz encore plus tôt, d'ici quelques petites années. Si l'Allemagne doit abandonner les énergies fossiles, elle doit accélérer le développement des énergies renouvelables. Plus vite elle y arrivera, plus vite elle sortira du charbon. Mais à l'heure actuelle, on ne peut que spéculer sur une date de sortie.
En attendant, l'agriculteur Eckart-Heukamp refuse de baisser les bras. Il a mis ses champs à disposition de militants du climat qui mettent en place une véritable ZAD, une zone à défendre. Ils ont installé un grand campement et construisent des cabanes dans les arbres avec vue plongeante sur la mine à ciel ouvert. Marie représente l'association Alledörfer bleiben, tous les villages restent.
Toutes ces terres appartiennent à Eckart, l'agriculteur qui vit là-bas. On utilise cet espace pour notre mobilisation et pour préparer la résistance
lance contre une campagne d'abattage des arbres à l'automne. À partir de fin octobre, ce sera la fin de la période de chasse et les arbres pourront être alors abattus si la justice décide que le terrain appartient désormais à RWE. La compagnie d'électricité voudrait récupérer le terrain le plus rapidement possible pour le bon déroulé de ses opérations.
Une perspective que les militants réunis dans le campement de Lützerath sont bien déterminés à repousser au maximum. Dans la clairière qui sert de lieu de restauration et de rencontre, une affiche appelle à manifester ce vendredi 24 septembre à l'occasion de la grève mondiale pour le climat. À la veille des législatives, ce rendez-vous revêt une importance particulière pour les militants. Anna fait partie de l'association anti-charbon Ende Gelände qui a mené plusieurs opérations de blocage des mines ces dernières années dans le bassin rhénan. Elle estime qu'il reste encore une chance de sauver les villages menacés.
Je pense effectivement que c'est réaliste, parce que l'exploitation du charbon est de moins en moins justifiable. Ça ne se fait plus de virer des gens de chez eux pour exploiter une énergie polluante.
À Koukoum, l'un des villages qui doit en principe disparaître pour laisser place à une activité d'extraction du lignite, Christian Odermatt est revenu pour quelques heures dans son ancienne maison, le temps d'emporter les derniers objets restés là après le déménagement. En mars, la famille a vendu sa maison à RWE et habite désormais à une dizaine de kilomètres de là. Lorsqu'ils avaient emménagé ici, il y a 20 ans, Christian et son mari avaient été informés qu'il y avait du lignite sur leurs pieds et une mine qui devait s'étendre pour continuer à produire.
On le savait, mais on s'était dit que ça n'arriverait pas ou que ça n'arriverait pas avant très longtemps, avant une trentaine d'années. Même si on en avait conscience, on ne s'attendait vraiment pas à ce que ça arrive si vite. Et puis, il y a eu Fukushima, et à partir de là, il a été clair qu'il fallait renoncer à l'énergie nucléaire et que l'extraction de charbon allait encore se poursuivre. C'est allé beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait imaginé.
Ça, c'était notre maison. Là-bas, il y a encore des gens qui habitent. Ils refusent de partir. Et de l'autre côté de la rue, il reste encore cette maison. Et cette maison, ça n'est pas complètement vide.
Oliver Kannenberg a, lui, vendu sa maison à RWE il y a plus de 2 ans. À l'entrée, sur un pilier de l'auvent, un écriteau signale que le bâtiment, propriété de l'énergéticien, fait l'objet d'une vidéosurveillance. Il n'y a pas d'âme qui vive dans la rue. La plupart des maisons sont vides. Sur les quelques 230 habitants du village, environ 25 refusent de vendre leur maison, selon Oliver. Les autres sont déjà partis.
On a déménagé ici il y a 18 ans. On savait qu'un jour ou l'autre, quelque chose pourrait arriver. Mais avec l'évolution des énergies renouvelables, comme les énergies éoliennes et solaires, on avait l'espoir qu'on n'utiliserait plus le lignite. Ils font tout ça juste pour produire de l'électricité avec ce charbon qu'on a sous nos pieds. S'ils faisaient encore ça pour une raison valable, mais c'est uniquement pour ce charbon brun. La seule raison, c'est qu'on a ce charbon juste en dessous de nous. C'est fou.
Verrückt.
Si Oliver revient régulièrement devant sa maison pour entretenir le petit bout de jardin, c'est parce qu'il a désormais l'espoir de racheter cette maison qui a vu grandir sa fille. Les développements de ces derniers mois lui ont redonné de l'optimisme. Il y a eu d'abord cet arrêt, en avril, de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, reprochant au gouvernement Merkel de planifier trop tardivement l'élimination des gaz à effet de serre, l'accusant de faire porter le fardeau du changement climatique sur les générations futures. Dans la foulée, le ministre de l'économie de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Andreas Pinkwart, a évoqué une fermeture moins tardive de la mine de Garzweiler, ce qui signifierait que les 5 villages en sursis pourraient être épargnés. Un nouveau point d'étape est prévu en 2026. En tout cas, Oliver espère que le gouvernement qui sortira des élections de ce dimanche mènera une politique de défense de l'environnement plus active.
Nous devons agir plus activement et non pas réagir une fois que quelque chose survient. J'espère que le gouvernement va agir plutôt dans ce sens. À mon avis, il faut voir ce que les autres peuvent proposer. Le SPD et les Verts pourraient éventuellement trouver ensemble un terrain d'entente et tenter un virage politique, mais c'est encore très vague pour le moment. Ce qui ne fonctionne plus, c'est le discours « on continuera comme avant ». Non, ça, beaucoup de gens n'en veulent plus.
L'Institut allemand de recherche économique a étudié en détail les propositions des candidats aux législatives sur le climat. Verdict, pour atteindre l'objectif principal de la loi sur la protection climatique qui vise à une élimination complète des gaz à effet de serre d'ici 2030, ces propositions sont insuffisantes, y compris celles des Verts, qui font toutefois un peu mieux que les autres.
Le Le climat, enjeu incontournable de l'après-Merkel. Un grand reportage d'Anastasia Becchio, réalisation Laurie Plisson.